pour le podcast Enfanter et devenir.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde.
Naître à soi et naître au monde. Des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Bienvenue dans Enfanter et devenir, le podcast dédié à l'accompagnement respectueux des enfants, mais aussi à l'empouvoirment via la parentalité. Après 2 saisons axées sur des récits de naissance uniquement, il va y avoir du nouveau. Ça va être un joyeux bazar ici. Alors préparez-vous à être inspiré, informé et motivé dans votre parcours de parent, mais pas que. Ici, nous explorons ensemble les différentes facettes de ce merveilleux voyage qu'est la parentalité, en mettant l'accent sur l'accompagnement respectueux des parents et des enfants, mais aussi sur l'écologie, parce que bon, on n'en parle jamais trop. Je suis ravie de vous retrouver seule ou avec des invités pour partager des réflexions, des expériences inspirantes, des astuces qui vous aideront à vivre pleinement votre rôle dans ce nouveau paradigme pour un monde qui a grandement besoin qu'on évolue dans nos pratiques vers plus de douceur, de lenteur et de respect. Je m'adresse ici aux parents et aux pros de la petite enfance, mais de manière plus globale à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'enfance, aux relations harmonieuses et à l'épanouissement individuel et collectif. Ouh oui, c'est un vaste et ambitieux programme. Avant tout, je me présente, je suis Laetitia Boivin, créatrice de Maman d'Alune, formatrice passionnée en périnatalité et surtout, maman de 4 merveilleux enfants, de 15, 12, 5 et 2 ans. Parmi eux, 3 sont nés à la maison, librement. Ça a clairement impacté ma vision du monde et influé sur la maman et la pro que je suis aujourd'hui. Il y a 15 ans, je faisais partie de ces rares mamans écolos bizarres avec leur lubie de maternage. Mes enfants ont tous été allaités et portés des années. D'ailleurs, c'est encore en cours pour ma plus jeune. Avec chacun d'entre eux, j'ai vécu l'expérience de l'hygiène naturelle infantile, du tout lavable. J'ai signé pour enrichir notre communication. Nous avons voyagé à travers plusieurs continents. Et depuis toujours, ils grandissent sans école. Des choix que je chéris chaque jour. En bref, j'ai la chance de voir ma vie pro et ma vie perso se nourrir mutuellement. Ici, pas de jugement et pas de culpabilisation. On chemine ensemble. Vous êtes invité à prendre ce qui fait sens pour vous, ce qui vous fait du bien, et à laisser le reste. Mon objectif n'est pas de convaincre, mais vraiment de vous soutenir. Alors préparez-vous à vivre une aventure joyeuse, intense et pleine de découvertes dans le monde de l'accompagnement respectueux et de la parentalité. Bien le bonjour, bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier puisque ça va être un épisode témoignage où je vais moi-même vous conter une partie de mon histoire. Il y a 2 jours, le 2 avril, c'était la journée de sensibilisation à l'autisme et j'ai envie aujourd'hui de m'engouffrer dans ce vaste sujet. Ça va pas être très évident pour moi. Parce que j'ai somme toute pas tous les tenants et les aboutissants, parce que ça me semble quelque chose de très vaste et très complexe. Toujours est-il que je vais ici vous livrer une partie de mon histoire. J'espère que vous livrer une partie de mon témoignage pourra être utile à certains et certaines d'entre vous. Je me présente déjà au début de chaque épisode de ce podcast, donc je suis toujours Laetitia Boivin. Et c'est vrai que j'ai une tendance à facilement parler de moi. En fait, j'ai assez peu de filtres. Ça peut être assez inconfortable d'ailleurs pour mon entourage parce qu'on a bien souvent des choses qui, sans que ça soit des tabous, on va dire, il y a des choses qui se disent en société, d'autres pas. Il y a des choses qui relèvent de l'intimité, d'autres pas. On a des pudeurs qui se placent différemment et moi, j'ai clairement pas toujours un cursus, j'ai pas toujours un curseur qui est très évident, en tout cas qui n'est pas toujours, on va dire, du goût de mon entourage. Et voilà, ça fait partie des petites particularités
dont je sais maintenant qu'elle relève de mon autisme. Parfois, on me dit que je suis courageuse, mais pas tellement, parce que finalement, je ne le fais pas toujours intentionnellement, et les répercussions sont parfois douloureuses. Donc voilà, je vais essayer de faire court. J'ai été une petite fille, qu'on a toujours décrit comme très sociale. Alors moi, je ne sais pas si c'est ce dont je me souviens. Je me souviens d'avoir toujours ressenti beaucoup de solitude et un certain décalage avec une certaine intolérance aux gens. Parce que je n'arrivais pas toujours, et c'est encore le cas aujourd'hui, à saisir comment les personnes peuvent penser différemment. Alors, je sais bien que ça peut faire bizarre d'entendre ça, mais clairement, j'ai beau le vouloir très profondément, à cultiver ma tolérance, il y a quand même régulièrement où je suis challengée par le fait de ne pas comprendre comment les personnes peuvent penser certaines choses ou ne pas comprendre certaines autres. Et ça m'a souvent placée en difficulté, notamment enfant, où j'avais régulièrement l'impression que les personnes qui étaient autour me pensaient de moi que j'étais hautaine ou que j'avais un air supérieur, tout ça. Alors c'était pas du tout le truc, mais en tout cas oui, j'ai clairement, avec les années, je me rends compte que les liens que j'ai pu tisser n'ont pas été tissés grâce à moi. Je les ai pas vraiment entretenus, donc en fait les personnes avec qui j'ai le contact aujourd'hui, c'est les personnes qui font la démarche elles-mêmes de garder le lien. Alors je suis très contente, je suis une personne qui est très sociable, qui adore vraiment être entourée, mais ça me demande énormément d'énergie. Et du coup, j'ai envie de dire que je suis complètement saturée de toutes les interactions sociales. Donc voilà, ça fait partie des choses comme ça sur lesquelles je ne mettais pas de mots. Et petit à petit, la vie suivant son cours, je suis passée d'une petite fille à une jeune fille. Bon, je ne vais pas rentrer sur le détail que j'ai vécu des violences sexuelles qui brouillent un petit peu aussi les pistes en termes de savoir pourquoi on se sent mal, est-ce que c'est la différence d'un éventuel autisme ou pas. Toujours est-il que j'ai été une jeune fille avec une crise d'adolescente assez extrême, où j'ai clairement été chercher des limites très très loin, beaucoup plus loin que la majorité des enfants, avec des prises de risques vraiment inconsidérées, avec énormément de violence et un gros besoin d'émancipation. Et puis après, il y a aussi les rencontres de la vie qui font que on baigne dans un environnement qui est plus ou moins sain, je vais dire, et qui est plus ou moins serein. Et j'ai continué à sentir qu'il y avait un certain décalage. Quand je suis devenue maman, pour la première fois, j'ai vraiment ressenti que j'étais pleinement confiante. Alors c'est assez étrange, mais j'ai l'impression qu'avec mes enfants, j'ai découvert une relation, un amour qui était au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. Et je me suis vraiment sentie à l'aise dans mon rôle, dans ma communication. C'est assez difficile de le décrire en mots. Toujours est-il que pour moi, ça a marqué vraiment un tournant dans ma confiance et dans ma capacité à me sentir vraiment ancrée. Et puis, je me suis retrouvée à 26 ans avec un suivi psy pour différentes raisons, où j'ai fait un test qui a révélé que j'étais à haut potentiel. Donc ce qu'on appelle maintenant HPI, qu'on a fut un temps appelé surdoué, qu'on appelle maintenant haut potentiel intellectuel. Donc c'est des tests assez bateaux, très standardisés, où on répond à une certaine série de questions et qui nous donne un chiffre pour savoir en gros si on est plus ou moins dans la norme. Et ce chiffre-là, a priori, pouvait expliquer un certain décalage dans mon vécu et dans mes ressentis. Et moi, ce premier diagnostic, en fait, il m'a apaisée en me disant « Ok, il y a des choses où je ne me sens pas en phase, il y a des choses où ça me prend beaucoup d'énergie, Et ben voilà, j'ai la réponse, je sais pourquoi maintenant, et c'est ok, et ça fait du bien de se dire que c'est pas juste moi en fait qui vais pas, parce qu'en fait très souvent quand on sent qu'il y a un décalage, je pense que c'est pareil pour la majorité des gens, on se remet en question nous-mêmes plutôt que de remettre en question l'ensemble des gens qui nous entourent ou la grande majorité des gens qui nous entourent. Donc à ce moment-là, je me suis dit ok, bon ben ok, c'est super, je sais pourquoi je suis en décalage, pourquoi il y a autant de choses qui me minent, qui me fatiguent, qui m'épuisent, et pourquoi régulièrement je me sens pas en phase avec les gens qui sont autour de moi, avec les choses qui se passent autour de moi, avec plein de choses qui me dépassent complètement en termes d'actualité, en termes, sachant que j'ai toujours fait partie des personnes un peu atypiques, où je ne suis jamais rentrée dans le moule, entre guillemets, parce que ce n'était pas possible pour moi. Donc, j'ai jamais eu un boulot, par exemple. J'ai jamais eu un CDD ou un CDI. Enfin, si, j'ai fait des CDD en saison. Mais je n'ai jamais réussi à rentrer dans une routine, parce que la routine, vraiment, c'est quelque chose qui m'étouffe. Alors, justement, là, je vais entrer un petit peu sur ce qu'on entend, sur les mythes un petit peu... qu'on peut entendre régulièrement par rapport à l'autisme, c'est que dans ma tête, parce que j'ai fait quand même du coup un bac sciences médico-sociales avec une fac de psycho, et ce que j'entendais moi par rapport à l'autisme, c'était vraiment le cliché de ben, l'autiste, c'est comme dans Rayman, ça va être la personne qui parle pas, qui se recroqueville sur elle, qui balance la tête, qui se tape la tête contre les murs, qui regarde pas dans les yeux, qui est pas obligé. Enfin, vraiment une petite partie du trouble autistique qui est réelle, qui existe, mais qui en fait fait partie d'une minorité des autistes. En tout cas, je n'ai pas de chiffre du tout à avancer ici, mais qui n'est pas représentatif de tout le spectre. Et du coup, bah, à aucun moment, j'avais pu imaginer que ça puisse me concerner personnellement. Et puis, en miroir, quand mes enfants ont commencé à grandir, il y avait quelques petites choses aussi qui me semblaient être en décalage, mais j'avais tendance à remettre ça un petit peu... sur notre éducation différente, si l'on peut dire. J'avais vraiment choisi d'accompagner mes enfants de manière respectueuse et c'est pas quelque chose que je voyais beaucoup autour de moi. Donc j'avais pas de référence pour dire ok, ben un enfant à qui on met pas les mêmes règles, les mêmes limites, peut-être que ben, juste il est plus libre et peut-être que c'est un petit peu, on va dire, la contrepartie en disant bon, ben, l'éducation trop laxiste, les enfants font n'importe quoi. Moi, j'avais pas du tout la sensation d'être laxiste parce que c'est très différent. Une éducation qui est positive, un accompagnement respectueux n'est pas un accompagnement laxiste. Je n'ai pas la sensation d'avoir été laxiste avec mes enfants. Par contre, ben, oui, je définissais des règles avec eux. Il y a plein de choses qu'on faisait très différemment de notre entourage, de comment les enfants autour de nous étaient élevés. Et c'est vrai qu'ils avaient une certaine liberté et parfois certaines difficultés que je n'associais pas forcément à ça, mais qui pouvaient au fur et à mesure des années me mettre quand même un petit peu la puce à l'oreille. Donc en parallèle de ça, j'ai continué à beaucoup bouquiner parce que c'est quelque chose que j'aime énormément faire depuis toujours. Les livres sont vraiment un refuge pour moi. Et dans les différents bouquins, je suis tombée par hasard, dans une bibliothèque féministe, sur le livre « La différence invisible » de Julie Dacher. C'est une petite BD et j'ai vraiment ressenti quelque chose de hyper fort en découvrant cette histoire. C'est l'histoire d'une femme, une femme comme moi, j'ai envie de dire maintenant, qui a un quotidien très banal. Et en fait, qui est autiste. Et c'est pas l'autisme là, en l'occurrence, qu'on avait pu voir très cliché. C'est pas l'autisme non verbal, non, c'est une autiste qui fait sa vie, qui prend beaucoup sur elle et qui arrive à avoir un quotidien à peu près normal, entre guillemets. Donc quand j'ai lu ça, ça m'a mis une petite puce à l'oreille, mais bon, bah voilà, pas plus, pas moins. Comment définir si nous on est légitime ou pas, enfin bref, en tout cas c'est resté dans un petit coin de ma tête, et voilà. Et j'ai un de mes enfants qui a été diagnostiqué également très haut potentiel, avec qui il y avait pas mal de difficultés, notamment psychomotrices. Il a fallu attendre 12 ans pour qu'il réussisse à faire ses lacets, par exemple, pour donner une petite ordre de choses, très isolé, mais pour plein de choses différentes comme ça, c'était assez complexe, avec des intérêts spécifiques. Donc ça, les intérêts spécifiques, c'est quand on s'intéresse à un sujet particulier qui va prendre beaucoup de place, dont on va pouvoir parler toute la journée. Et il y a beaucoup de petites choses comme ça, finalement, isolées, de manière isolée, ben, ça peut arriver à tout le monde. Et en fait, il y a énormément de choses comme ça par rapport à l'autisme. On dit, ben, oui, bien sûr, tous les enfants vont avoir une période où ils vont s'intéresser, j'en sais rien, aux Pokémon, aux dinosaures... Il y a des petites choses qui sont un peu moins banales, on va dire, quand ça va être spécifiquement la différence entre tous les types d'excavatrices. Ce qui intéressait par exemple mon fils quand il était petit. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours vécu, donc je trouvais ça normal. J'ai eu ma période pendant... 6 mois, 1 an, où j'ai lu tout ce que je trouvais sur la Deuxième Guerre mondiale, j'ai eu ma période où j'ai bouquiné tout ce que je trouvais sur les plantes médicinales, j'ai eu ma période, et en fait j'ai toujours papillonné d'une chose à l'autre comme ça, en faisant une boulimie d'informations, et puis ça me semblait être, on va dire... tout à fait banal, tout à fait classique, et j'avais l'impression que tous les gens devaient fonctionner comme ça. Et c'est pour ça que aussi, je suis désolée, ça va être décousu, mais c'est pour ça que aussi, quand j'ai découvert Montessori, j'avais 17 ans, quand j'ai découvert la philosophie Montessori, c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionnée. J'ai lu tous les bouquins que j'ai pu trouver à ce moment-là. Et quand j'ai commencé à me former, y a énormément de choses qui faisaient sens pour moi, où je me disais, waouh, mais ça... en fait, j'ai recompris différemment tout ce que j'avais appris à l'école. Pourtant, j'avais été une plutôt bon élève, avec un bac et avec mention sans trop de difficultés. Mais toujours est-il que j'avais dû faire des mémotechniques hyper compliquées dans ma tête parce que ça n'avait pas de sens. Et j'arrivais à retranscrire comme je pouvais, avec pas d'intérêt du tout pour ce que je faisais. Et en manipulant avec la pédagogie Montessori, j'ai senti qu'il y avait vraiment des choses qui s'ancraient profondément. Je comprenais vraiment comment et pourquoi... quel était l'intérêt de certains concepts mathématiques. Alors je suis passée de quelqu'un qu'on disait qui n'était pas du tout matheuse avec l'étiquette. Alors ça c'est aussi parce qu'en tant que fille, on a tendance à nous dire ça. Donc moi j'étais vraiment plutôt une littéraire, alors que finalement quand j'ai découvert Montessori, je me suis rendu compte que non, j'étais très très cartésienne et qu'au contraire, je suis une fan de maths, j'adore tout ce qui est statistique, j'adore avoir des chiffres, avoir des preuves, avoir des trucs concrets. Pour moi c'est vraiment très structurant, c'est pour ça que je commence cet épisode de podcast en disant « je suis désolée, je suis pas super calée » parce que en fait j'ai commencé à m'intéresser à l'autisme il y a peut-être 8 mois je dirais maintenant, donc ça reste très récent. Et il y a tellement à voir et à lire que j'ai pas du tout fait le tour de la question, parce que c'est un très vaste domaine. Mais je vois bien que en fait, cet attrait des chiffres, il va répondre pour moi à un besoin d'avoir des trucs concrets, d'avoir quelque chose de palpable. Et c'est ça qui pour moi fait toute la magie de Montessori, et c'est aussi pour ça que... je trouve ça fondamental d'accompagner nos enfants avec cette philosophie. Ça va être leur permettre d'avoir des choses palpables, concrètes. Donc quand on va faire des notions mathématiques, on va passer par les perles, on va les manipuler, on va les compter, on va avoir une notion dans les mains d'ordre croissant, on va voir, voilà. C'est ça, on va essayer de le faire un petit peu dans tous les domaines. Et moi, c'est quelque chose qui a vraiment jalonné toute mon expérience de maternité avec mes enfants. J'ai toujours fait en sorte de donner du concret dans tout ce qu'on fait. Avant de parler de l'évolution des plantes, et ben on va faire du jardin. Avant d'aller voir une expo de musée d'impressionnisme, on va essayer nous-mêmes la peinture avec différentes techniques. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Avant d'aborder la préhistoire, on va se construire des grottes en carton et on va faire de la peinture rupestre à l'intérieur. Et tout ça, en fait, je le prépare pour mes enfants, avec les enfants que j'ai en atelier, mais je le prépare pour moi parce que c'est comme ça que moi je le vis, c'est comme ça que ça fait sens. Toujours est-il que quand mon enfant à 8 ans a été diagnostiqué très haut potentiel, j'ai émis l'idée auprès du neuropsy qu'on allait voir, qui aurait peut-être, en tout cas que je me questionnais sur un éventuel trouble autistique. Et là, je vous le donne en mille, il a dit « Oh là là, non, je vois qu'il n'y a pas du tout de problème d'autisme parce qu'il me regarde dans les yeux. » Donc voilà, il y a eu plusieurs autres facteurs, sachant que du coup, c'est un professionnel qui a les compétences de, on va dire, diagnostiquer tout un tas de neuroatypies, mais qui n'était pas spécialisé dans les TSA. Et les TSA, c'est quelque chose de très spécifique qui reste très peu connu en France. Et mine de rien, je pense que comme dans beaucoup de domaines, on a assez de décalage. C'est un petit peu problématique parce qu'on est souvent sous-diagnostiqué, j'imagine. Et forcément, ben, la prise en charge derrière font défaut et c'est bien dommage parce que finalement il y a pas mal de choses à faire, mais c'est voilà, ça demande un parcours qui est long, qui est compliqué. Pour vous donner une petite idée, le parcours pour avoir un diagnostic TSA, il va passer par souvent une anamnèse, on va vérifier un petit peu l'histoire de la personne, enfin pas vérifier, mais en tout cas échanger pour comprendre un petit peu tout l'historique de la personne. Après, il va y avoir, s'il n'y a pas encore eu de test de QI, on va passer un test, donc souvent c'est le Weiss ou le VISC, ça dépend de l'âge de la personne qui se fait diagnostiquer. Ensuite, il va y avoir un autre test qui s'appelle l'ADOS pour pouvoir vérifier spécifiquement l'autisme. Et ensuite, il peut y avoir aussi un entretien qu'on appelle l'ADI, qui va être un entretien avec les parents pour pouvoir un petit peu faire le tour. Moi, j'ai choisi de me rendre auprès d'un cabinet privé qui a l'avantage de faire bosser plusieurs professionnels, ce qui fait qu'on ne voit pas une seule, mais plusieurs des professionnels. Et ça permet de croiser les données et d'avoir quelque chose qui, à mes yeux, est irréfutable. Et ça, c'est hyper important parce que mine de rien, quand on a un diagnostic qui est posé par rapport à l'autisme, l'une des premières choses qu'on va entendre, et moi je l'ai entendu le jour même de mon diagnostic, c'est « mais non, c'est pas possible, pas toi ». Et ça va être remis en question. Ça va être remis en question parce que le décalage entre ce que les gens imaginent de ce qu'est un autiste et parfois ce qu'on est, avec des personnes avec qui on a plus ou moins de liens, sachant que la plupart du temps, quand on le dit au départ, c'est aux personnes qui sont proches. Et ces personnes proches, elles n'arrivent pas à y croire parce que c'est trop décalé de leur imaginaire de ce qu'est un autiste. Et parce que parfois, non seulement elles n'ont pas les infos, puis elles ne veulent pas le voir aussi, parce que mine de rien, le mot autiste, il a une connotation qui est quand même très négative. On le voit vraiment comme un handicap, comme quelque chose qui a des troubles sérieux. Et les personnes de l'extérieur, en fait, n'imaginent pas toujours ce que sont nos troubles. Moi, dans les gros choses qui ont été déclencheuses, c'est que j'ai une amie qui, je pense, m'écoutera, donc je te fais un petit coucou, qui est passée à la maison quand elle était en cours de diagnostic. Et elle m'a donné des ressources, notamment une ressource que je cite régulièrement, c'est un podcast qui s'appelle « Troubles dans le spectre », qui est très bien fait. Et j'ai écouté tous les épisodes, mais ça c'est pareil, je pense que ça fait un petit peu partie de ces atypies où quand on s'engouffre, comme je disais tout à l'heure, c'est une boulimie. Donc là j'ai tout écouté, et notamment l'épisode sur l'autisme au féminin, qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps, qui mettait exactement des mots très précis sur ce que je vivais, et ce que je vivais en tant que maman, donc forcément 4 enfants, des enfants qui font l'école à la maison, toujours été indépendante, enfin voilà, toutes ces petites choses, bout à bout, qui font que, bien sûr, on explique ma fatigue. Et à ce moment-là, en fait, et régulièrement, je sais que je ne peux pas me plaindre, entre guillemets, parce qu'on me dit, c'est normal, c'est avec les choix que tu fais, c'est normal que tu sois fatiguée. Sauf que je sais bien que cette fatigue-là, c'est pas juste une fatigue de manque de sommeil, c'est pas juste une fatigue, même s'il y a de ça, bien sûr. Je sens qu'il y a une fatigue profonde, qui est vraiment complètement différente. Et je sens que c'est une fatigue, qu'on peut te lire, un épuisement. Un épuisement qui est dû à toute ma suradaptation. Et en fait, je pense sincèrement que c'est pour ça qu'on est aussi nombreuses, et là je parle principalement des femmes, à y diagnostiquer tard, parce qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure des années, on essaye de s'adapter, on essaye de de coller au cadre, et en fait, on n'y arrive pas. Et avec tous les efforts qu'on fait, eh ben, ça ne suffit pas, ça ne suffit jamais. Et on brasse, j'ai vraiment l'impression de nager à contre-courant en permanence, et d'être épuisé. Et en fait, on arrive vraiment à un moment de burn-out autistique où c'est plus possible. Et qu'on a beau faire tout ce qu'on veut, en fait, on n'arrivera pas. On n'arrivera pas à faire comme tout le monde parce qu'on n'est pas comme tout le monde. Et ça, c'est vraiment un constat que je m'autorise pas tant que j'ai pas de diagnostic. Et à partir du moment où le diagnostic tombe, en fait, je le vis comme un vrai soulagement. Je me dis pas « Oh là là, mon Dieu !» Je me dis pas du tout « Oh bah mince, si on avait su plus tôt, on aurait pu mettre des choses en place. » Je me dis pas tout ça. Je ferai complètement table rase de tout le passé en me disant « Ok, c'est le premier jour, entre guillemets, du reste de ma vie. » Et à partir de maintenant, je fais quoi? Je sais que j'ai des spécificités, je les comprends mieux aussi parce que du coup, j'ai une interlocutrice privilégiée pour en parler, qui m'explique comment je fonctionne, de pourquoi je ressens ça à ce moment-là, qu'est-ce qui est dur, qu'est-ce qui va être en fait de ma personnalité et qu'est-ce qui va être de mes troubles, et savoir que de toute façon, ils sont en moi, ils ont toujours été là, et maintenant, comment je vais pouvoir les apprivoiser pour avoir la vie qui me convient, tout simplement. Et pour moi, ça va être vraiment un petit pass, petite carte joker, que je vais pouvoir m'autoriser à utiliser quand j'en ai besoin, en fait. Et ça, c'est quelque chose que de moi-même, je n'en suis pas capable. Et dans mon épuisement, bien sûr, il y a des choses, je suis épuisée du quotidien de certaines choses, mais en fait, je suis aussi épuisée parce que je ne sais pas lâcher. C'est pas que je ne veux pas lâcher, c'est que je ne suis pas capable. Pour donner une petite idée, quand je vais m'intéresser à quelque chose, je vais creuser à fond dans ce sens. Donc là, ça va être une action volontaire de ma part de chercher de l'information. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Sauf qu'en fait, le revers de la médaille, dans ce sens-là, ça veut dire que je ne vais pas être capable à un moment T de me dire là j'arrête, ça suffit, c'est assez. Je vais être capable de creuser comme ça, au-delà de tout ce qui est, on va dire, convenable en termes de temps, en termes d'énergie, et là ça va être complètement nocif, ça va être vraiment le revers très négatif de la médaille. Pour vous donner des petits exemples, quand je vais vouloir faire un achat, je vais être capable de faire des comparatifs pendant des journées entières. Donc oui, on peut dire faire des journées entières de recherche pour un achat important comme une maison, ça n'a rien de dingue, c'est censé. Sauf que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était pour les liseuses audio pour mes enfants. Donc j'ai passé des journées, je me suis traquée parce que comme je vous le disais, j'aime bien les chiffres, donc je traque mon temps. J'aime savoir combien de temps j'ai attribué à telle et telle chose. Donc j'ai traqué mon temps et j'ai fini par arrêter. C'est pas un domaine hyper vaste, hein. Voilà, il y a un certain nombre de liseuses audio. Et en gros, j'ai passé 36 heures de mon temps pour choisir la liseuse audio qu'auraient mes enfants pour les fêtes de Noël. Et voilà, ça peut faire rigoler. Je suis pour l'autodérision à fond, hein. Je trouve ça ridicule, clairement. J'aurais pu passer 2 heures devant, je pense que peut-être c'est la majorité des parents passent 1 ou 2 heures, je ne sais pas exactement, mais voilà. Et moi non, en fait, soit je fais l'achat le premier qui vient et je sais que je vais regretter parce que je vais me dire mais non, en fait, celui-là, il n'est pas bien. Soit j'ai vraiment besoin de faire le tour, de savoir toutes les caractéristiques techniques, les durées de charge, les durées d'heure, combien de temps on peut mettre. Et je fais le tour de la question avant de prendre ma décision. Et ça, c'est difficile. Et ça, dans le quotidien, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie. Et donc, alors, ça me donne des très grandes capacités en tant que formatrice. J'ai eu la chance qu'on me propose, parce que il y a beaucoup de choses, je ne fais pas moi-même la démarche d'eux. Mais je suis très contente de suivre les projets quand on me les propose. Donc là, on m'avait proposé une première formation que j'ai faite, et il y a eu énormément de retours positifs. Et je me rends compte que oui, en effet, c'est une très grande chance pour moi, cet autisme, parce que j'adore parler des choses qui me passionnent. Et du coup, ben, en tant que formatrice, c'est super. J'ai même eu certaines stagiaires qui me disaient « Oh là là, madame, au début de l'année, quand on vous a vu en cours, on se disait « Mais c'est trop, elle est trop à fond, ça va être compliqué. » Et en fait, qui était très contente parce que justement, j'apporte peut-être quelque chose d'un petit peu différent également. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai tellement à cœur que ça soit concret que ça passe énormément par le jeu, ça passe énormément par des mises en situation. Et ça, je suis vraiment convaincue que ça permet de prendre du recul et d'assimiler vraiment beaucoup d'informations et de s'en faire, on va dire, et d'acquérir des compétences qui vont nous permettre d'être des très bons professionnels, notamment dans le monde de la périnatalité et de la parentalité. J'avais envie de vous donner quelques petits chiffres. En France, on estime qu'il y a environ 1% de la population qui est touchée par l'autisme, et ça représente quand même 700 000 personnes. Donc c'est pas rien, sachant que ce 1%, moi, il me semble bien sous-estimé. Peut-être qu'avec plus de professionnels aptes à diagnostiquer les TSA, on va voir aussi plus de diagnostics, et donc les statistiques vont changer un petit peu. On estime qu'il y a une femme autiste pour 4 hommes, donc il y a une grosse disparité. Là, encore une fois, je pense qu'il y a un masking. Donc le masking, c'est la capacité à cacher ces troubles, qui va être beaucoup plus forte pour les femmes, qu'on pousse à être beaucoup plus résilientes, à beaucoup moins s'écouter, à faire moins attention à elles, plus attention aux autres. Et donc, de fait, on n'est pas encouragé à vivre de la même manière. Donc il y a un décalage à mon avis à ce niveau-là. Je voulais rappeler quelque chose d'important. On est autiste, on ne le devient pas. Oui, en effet, peut-être qu'il va y avoir certaines choses qu'on ne voit pas dans la toute petite enfance. Et petit à petit, on va avoir quelques signes, quelques petites choses qui vont nous mettre la puce à l'oreille. C'est pas toujours évident de savoir vraiment quels sont les critères, quels sont les signes qui vont nous alerter sur un éventuel autisme chez notre enfant. Déjà, puis pareil pour nous, pour ce qu'il y a en tant qu'adulte. Mais là, je vais vous lire quelques lignes du livre d'Héloïse Junier, Le manuel de survie des parents. Elle y consacre un petit chapitre avec toutes ces questions que je n'ai jamais osé poser. Et donc là, elle aborde la question d'un parent qui se dit « J'ai l'impression que mon enfant est autiste, comment on peut en avoir le cœur net ?» Donc là, elle va parler des différents signes d'alerte avant 2 ans. Donc côté langage, ça va être pas ou peu de babillage avant 12 mois. Pas de mots avant 18 mois. Pas d'association de mots avant 24 mois. Une répétition excessive des mots ou des bouts de phrases, un phénomène d'écolalie. Du côté de la communication, on va voir qu'il ne sourit pas, ou sourit peu, qu'il a un regard qui est mal ajusté, parfois un regard qui est fuyant, ou au contraire, trop insistant, pour voire pénétrant. Ça va être vraiment deux choses très différentes. Il ne répond pas ou peu à l'appel de son, souvent les parents s'inquiètent déjà s'il n'y a pas une éventuelle surdité. Il va ne pas pointer les objets du doigt, ou quand l'adulte pointe, il ne va pas repérer ce qui est montré. Il va plutôt avoir tendance à regarder le doigt. Il ne cherche pas ou peu à partager avec son parent ses intérêts pour certains objets. Il ne cherche pas à imiter. Du côté des émotions, on va retrouver qu'il peut éclater de rire sans raison apparente, ou faire des crises de colère ou de larmes sans raison apparente également. Il peut être plus sensible que les enfants de son âge au changement de routine. Du côté du jeu et du comportement, il va manifester une certaine fascination pour des objets qui tournent, et quelque chose de très précis comme les roues. Il va se focaliser vraiment son attention sur les petits détails. Il peut avoir des jeux répétitifs et obsessifs, par exemple aligner ou empiler des objets. Là, comme je vous le disais tout à l'heure, oui, bien sûr, tous les enfants vont passer par une phase d'alignement. Là, ça va être la récurrence et l'intensité de ce comportement qui va pouvoir mettre la puce à l'oreille. Ensuite, il peut avoir des jeux plus sensoriels que fonctionnels. Donc, c'est-à-dire agiter les cheveux de sa poupée devant la lumière plutôt que de la coiffer. Il peut manifester un attachement démesuré à certains objets. Ça va être la passion pour le petit truc trouvé dehors qui va être trimballé partout, qui va être vraiment surinvesti, si je peux dire. Il va y avoir peut-être des mouvements d'une partie du corps qui sont stéréotypés et répétés sans raison apparente, comme secouer les mains, se balancer. Et il peut sembler préférer être seul plutôt qu'avec les autres. Donc là, c'est une liste avec beaucoup de points différents. Bien sûr, les enfants peuvent avoir ces comportements sans être autistes. Et au contraire, peuvent être autistes sans avoir tous ces comportements. Mais en gros, ça va être, je pense, important en tant que parent de réussir à prendre du recul parce que c'est très difficile. Moi, j'ai tendance à penser que les parents sont les premiers à repérer quand il y a une chose qui est en décalage pour leur enfant, mais c'est pas une réalité. A priori, il y a aussi beaucoup de parents qui ne voient pas les différences de leur enfant, parce que l'amour rend aveugle, comme on dit. Et c'est pas toujours évident de savoir quel est le cursus de la normalité, entre guillemets, ou pas. Et en tant qu'adulte, je vous le dis, une autre liste également que j'ai trouvée en combinant plusieurs infos sur Internet. Et donc, on va retrouver la difficulté dans les interactions sociales. La difficulté parfois à établir un contact visuel, à comprendre les expressions faciales, le langage corporel ou les émotions des autres. Ça va être quelque chose, donc c'est pas qu'on n'aime pas les gens. Mais en gros, c'est que c'est difficile de comprendre les gens. Parfois, en effet, avoir du mal avec le second degré, ne pas comprendre les choses implicites qui peuvent être logiques. Donc ça peut mener vraiment à des mécompréhensions, à des quiproquos qui ne sont pas toujours drôles à vivre au quotidien. Les expressions faciales, réussir à ne pas toujours cerner si les gens sont... sérieux ou pas quand ils font une blague, mais dans d'autres domaines, s'ils sont en colère ou pas, si voilà, tout ce qui est langage corporel et émotion des autres. Et parfois, justement, en tant qu'autiste, on a tendance, et moi j'ai ça, à être très expressif, et ça nous dessert pas toujours. J'ai plusieurs exemples qui sont assez rigolos. Il y en a un, j'étais une toute jeune adulte, et j'étais avec des amis. Un copain on est en train de jouer à la console à un jeu qui s'appelait Tekken Tag. C'est un jeu de fight, un jeu de combat. Et on était filmés pendant qu'on jouait. Moi, je ne savais pas du tout, j'avais pas du tout repéré la petite caméra qui nous filmait. Et en gros, le copain qui jouait avec moi était impassible. Et il était en train de combattre. D'ailleurs, il gagnait, il me battait à plate couture. Il était complètement impassible. Et moi, on voyait sur la vidéo, on voyait que je vivais tout ce qui se passait. Vraiment, je faisais des grimaces, je souriais, j'étais à fond dedans. Et ça fait partie des choses qu'on retrouve assez régulièrement, le fait de surinvestir. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu en me disant, tu souris tout le temps. En fait, des fois, je pense que c'est aussi un masque social de sourire parce que je ne sais pas exactement quelle situation adopter. Et du coup, je trouve beaucoup plus facile d'avoir ce masque-là. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des vrais sourires. Bien sûr, il y a des vrais sourires. Mais c'est vrai que quand je ne sais pas trop, j'ai tendance à sourire, quoi. Et des fois, ce n'est pas approprié non plus de sourire. Sans parler du sourire nerveux quand on apprend des nouvelles pas drôles et tout, et que moi régulièrement je sais que c'est difficile parce que j'ai du mal dans ces moments-là à adopter une neutralité qui serait de rigueur. Il peut y avoir d'autres choses qui sont très difficiles et c'est aussi pour ça que malheureusement les femmes autistes sont beaucoup plus victimes de violences sexuelles que la majorité des femmes. C'est aussi parce qu'on n'a pas toujours la capacité de comprendre l'implicite, notamment dans les jeux de séduction et les jeux amoureux. Et ça va aussi créer des fois des situations qui vont être inconfortables, voire dangereuses, parce qu'on n'aura pas capté qu'il y a une intention peut-être derrière certaines choses qui nous semblent tout à fait banales, tout à fait classiques, ou au contraire, on va ne pas se rendre compte qu'on suscite un intérêt chez des personnes alors qu'on n'en était pas du tout là, nous, quoi. Donc la deuxième chose qu'on va retrouver régulièrement, c'est des difficultés de communication. Parfois, il peut y avoir un retard dans le développement du langage ou certaines répétitions de mots ou de phrases, mais aussi une difficulté à initier ou à maintenir une conversation. En gros, certaines conversations bateaux n'ont tellement pas d'intérêt que on préfère ne pas les avoir, tout simplement, mais on va plutôt rentrer sur des sujets très spécifiques avec... Très vite, ça va être des discussions qui vont être assez engagées, qu'on va pouvoir catégoriser un peu d'extrême. Et voilà, c'est pas toujours du goût de tout le monde non plus, parce que peut-être que notre avis sera donné plus facilement, sans filtre, sans pince, et que ça peut être inconfortable et indélicat. Et du coup, réussir à se sentir safe quand on sait que potentiellement, on va pas réussir à garder le curseur comme il faut, ça peut être compliqué et ça peut aussi ne plus donner envie de rentrer dans la communication en sachant pertinemment qu'il y a des risques, que ça bifurque et que ça nous mette, que ça mette tout le monde dans un inconfort et peut-être particulièrement nous. Ouais. Ensuite, il va y avoir des comportements qui sont répétitifs. Ça peut être possible au niveau des mouvements corporels, comme se balancer, frapper les mains ou avoir une petite gestuelle, un petit truc dont on ne se rend pas compte. Alors, pas au point de ce qu'on peut voir dans certains films, mais ça peut être quelque chose d'un petit peu plus discret. Voilà. Et il peut y avoir certaines petites obsessions pour des routines qui sont bien spécifiques, de faire certaines choses dans le même ordre. Moi, je sais qu'il y a des choses... J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup explorer, découvrir plein de choses, mais il y a certaines choses pour lesquelles il faut qu'il y ait un ordre particulier. Ou quand j'ai prévu quelque chose, dans ma tête, je ne peux pas déprogrammer. Ou les changements de dernière minute, c'est très compliqué parce que je me prépare, je visualise ce qui va se passer, je me mets vraiment en condition pour appréhender cet événement qui est nouveau. Et c'est vrai que trop de nouveautés, trop de changements imprévus au dernier moment, ça me met dans un état de saturation où je bloque, je bug. Et ça, c'est difficile. Je suis partie toute seule avec mes enfants en voyage 3 mois. C'était Thaïlande et Birmanie. Quand ils avaient 5 ans et elle a fêté ses 8 ans là-bas. Et donc pour moi, ça semblait complètement fou pour beaucoup de gens. Pour moi, ça ne l'était pas vraiment. Parce que j'avais déjà beaucoup voyagé plusieurs années en Asie du Sud-Est, parce que je parle thaïlandais, et du coup c'était quand même pas un voyage complètement incroyable. Enfin, c'était incroyable de vivre ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne partais pas très loin dans ma zone de confort. C'est ça que je voulais dire. Toujours est-il que je me suis retrouvée au bout de plusieurs mois de voyage, à être complètement en saturation, donc de stimulation, c'était une chose, d'hypervigilance en tant que parent en voyage, sachant que j'étais solo aussi avec 2 enfants, et je me suis vraiment retrouvée un moment dans une rue, on sortait de la guest house en été, et là, je n'ai pas réussi à savoir si je devais tourner à droite ou à gauche, parce que on devait aller manger dans un petit resto. Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment croulé sous le poids de la responsabilité de me dire « Ok, je ne sais pas faire ce choix-là, est-ce que c'est à droite ou à gauche ?» Parce que selon si on va à droite ou à gauche, eh ben, on ne va pas vivre la même chose, on ne va pas découvrir la même chose. D'un côté, peut-être qu'à 200 mètres, il y a un super resto, d'autre côté, on va marcher pendant 1 km ou je ne sais pas. Et ça, c'est vrai que ça a été très inconfortable. Et au bout de 3 mois, j'étais très contente d'avoir vécu ce voyage-là, mais au bout de 3 mois, j'étais très contente de rentrer. Et c'est la grande différence que je peux voir par rapport à mes premiers voyages où je partais 5 mois, 6 mois, 1 an et demi. Et maintenant, je pense qu'au bout de quelques mois, je suis très contente de revenir au confort de notre quotidien où tout est sur des rails, entre guillemets. Et pourtant, on a des vies très atypiques. Hein, mais où tout est sur des rails, où on sait ce qui va se passer, où il y a une certaine routine qui s'est installée et qui... n'est pas forcément rassurante, enfin, moi je la perçois pas forcément comme rassurante, mais en tout cas qui a l'avantage de ne pas me faire perdre d'énergie à savoir quoi faire. C'est vraiment, c'est pas hyper clair la manière dont je le formule, mais en tout cas je le vois pas de manière rassurante parce que j'aime faire tout le temps la même chose, c'est parce que en tout cas je sais ce qui va se passer. Et ça, ne pas mettre de l'énergie dans l'anticipation de plein d'éventuels possibles, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me repose. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe, et c'est pour ça que la communication est très difficile. Moi, j'ai la sensation que quand il y a des non-dits, j'imagine plein de possibles. Alors, je pense que beaucoup de gens font ça, mais j'ai vraiment comme un petit lecteur qui se met en route, et du coup qui va me faire tous les possibles, des possibles qui sont agréables aux possibles qui sont très désagréables. Et du coup, tant que je ne suis pas fixée, c'est complexe. Sauf que ne fonctionnant pas de la même manière, ben, je suis rarement fixée sur les choses. Et du coup, voilà. On va passer à l'autre petite chose que j'ai déjà évoquée, ce sont les intérêts spécifiques et qui sont parfois très intenses. On peut fixer vraiment sur un sujet. On peut être en capacité de retenir une grande quantité d'informations sur un sujet très précis. Alors, j'ai envie de dire parfois c'est génial. Par exemple, moi, je connais des personnes qui se passionnent pour tout ce qui est comptabilité et qui sont capables vraiment de gérer ça comme des championnes. Et à côté de ça, ben, on a parfois des sujets spécifiques qui vont nous servir à rien. Et on va passer du temps. Moi, quand j'ai passé des heures et des heures et des heures à chercher des infos sur les conteuses, sur les liseuses audio pour offrir un cadeau à Noël, bon bah super, génial, bon, j'en fais quoi? Ben au final, mes filles ont une très bonne liseuse, voilà. Est-ce que ça valait le coup d'investir autant de temps? Clairement pas, mais voilà, c'est, comme je vous le disais, c'est pour ça aussi qu'on parle d'un trouble, parce que on le déclenche pas à volonté comme on en a envie, c'est parce qu'on le subit aussi. Et moi, j'aimerais bien des fois me dire, non, mais là, stop, je bug. Et dans ma tête, il y a une partie de moi qui me dit, mais arrête, ça n'a pas de sens ce que tu fais. Mais au fond de moi, dans tout mon corps, je ne suis pas bien, je sens mes dents qui fourmillent, je sens mon corps, j'ai besoin d'aller au bout pour me sentir apaisée. Et je ne peux pas me tromper moi-même en me disant, non, c'est bon. Alors, il y a des choses pour lesquelles j'arrive à me raisonner, il y a des choses, et je le vois bien quand je suis dans des états de fatigue, quand... j'ai eu des surstimulations, quand il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, où ce trouble il est exacerbé. Et donc, on va finir avec les réactions sensorielles inhabituelles qui peuvent être un petit peu exacerbées aussi. Donc, ça peut être de l'hypersensibilité à certains vêtements, à certaines choses. On ne peut pas aimer les étiquettes, on peut ne pas supporter certaines matières. On peut aussi avoir des hyposensibilités. Et ça, des fois, ça peut être dangereux. Par exemple, on ne sent pas la chaleur, on ne sent pas... La fatigue, par exemple, et on va vraiment aller très très loin dans l'épuisement avant de se dire « Ouais, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. » Ça peut être une sensibilité au bruit. Moi, personnellement, j'ai énormément de mal et de plus en plus mal avec le bruit. Vous doutez bien que dans une famille avec 4 enfants, c'est important pour moi de préserver ce côté-là, parce que si en fin de journée, j'ai trop de stimuli, je n'arrive plus à supporter le bruit, mais la moindre conversation, qui est un ton tout à fait correct, me semble être complètement disproportionnée. Et moi, du coup, je vais régulièrement mettre des bouchons d'oreilles, voire le casque. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup aidée dans ma parentalité, mais que je ne mettais pas avant sur le fait d'être autiste. Il y a la lumière, moi je suis incapable de conduire par exemple sans lunettes de soleil, même quand il n'y a pas de soleil, mais juste des fois il y a des nuages, mais c'est très très clair. Il y a des personnes, ça va être plutôt le toucher, elles vont voilà, avoir besoin d'être touchées très fort parce que sinon elles ne le sentent pas trop, donc avoir besoin de dormir toujours avec une couette très épaisse par exemple, ou voilà. Il peut y avoir plein de sensibilités comme ça qui vont être dans une extrême ou dans une autre. Et ça peut être aussi une petite puce à l'oreille de se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Et donc, comme je le disais pour les enfants, bien sûr, on n'a pas tous les symptômes. Il peut y avoir certaines choses, certains signes qui sont présents et pas d'autres. Mais toujours est-il que si vous avez l'impression de cocher un certain nombre de cases et que vous avez la sensation que ça peut être bénéfique pour vous, de creuser plus loin, ben je vous invite à vous rapprocher des centres régionaux autistiques, les CRA. Il y en a a priori dans chaque région, c'est des lieux où vous allez pouvoir trouver des informations. Malheureusement, c'est aussi des lieux qui sont, on va dire, victimes du gouvernement actuel et avec très peu de moyens. Je ne sais pas si vraiment je peux dire ça, mais toujours est-il que la liste d'attente est vraiment très très longue. C'est pour ça que nous, on a choisi de passer dans le privé. Mais voilà, je vous invite à faire votre petit bonhomme de chemin si vous ne vous sentez pas concerné. Si vous ne sentez pas concerné, mais que toutefois vous avez envie de pouvoir être un allié ou une alliée des personnes autistes que vous avez autour de vous, je vous propose quelques petites choses toutes simples que j'ai écrites lors d'un post que j'ai fait sur Instagram sur mon compte Maman de la Lune. Je vous propose tout simplement de ne pas remettre en doute leur diagnostic. Le parcours, il est vraiment long, il est vraiment éprouvant. Croyez-les, tout simplement. Ne doutez pas de ce qu'ils vous disent, c'est trop douloureux d'avoir à répéter à chaque fois ou à se taire. Offrez votre écoute et votre soutien, même si vous trouvez qu'elle exagère. Ne minimisez pas le vécu de la personne qui va vous livrer ça. Parfois, on a tendance à entendre que quand une personne est diagnostiquée, on la voit un petit peu plus comme autiste, non pas parce que avant on ne le voyait pas, mais parce qu'elle exagère ses troubles. Sauf qu'en vrai, peut-être que tout simplement, à partir du moment où on est diagnostiqué, on se lâche un peu la grappe et on se dit « Ok, en fait, je suis dans un état d'épuisement parce que je fais en sorte de me montrer sous le meilleur jour tout le temps. » Et des fois, en fait, juste on a le droit de lâcher un peu ça. Et peut-être que oui, en effet, du coup, c'est plus visible. Mais c'est pas qu'on exagère, c'est juste qu'en fait, on passe moins d'énergie à cacher. On passe moins d'énergie à faire du masking. Et finalement, c'est pour un mieux-être pour nous, donc c'est peut-être moins confortable aussi, mais c'est vraiment plus confortable pour nous. Ensuite, soyez inclusive et acceptante, ne cherchez pas à fonctionner comme avant. Si vous aviez des habitudes avec une personne et que vous rendez compte que finalement, pour maintenir ces habitudes-là, ben, la personne en face de vous qui est autiste, elle a besoin de faire énormément d'efforts, et ben, essayez de voir, est-ce que vous pouvez changer un peu la routine, est-ce que vous pouvez faire en sorte de trouver un fonctionnement qui vous permette à chacune d'être vous-même, de continuer à maintenir la relation sans que ça demande plus d'efforts pour la personne autiste. Ensuite, ben voilà, proposez votre soutien, n'attendez pas qu'elle le demande, elle le fera sûrement pas. Ça fait partie des choses que je retrouve assez souvent d'après toutes mes lectures. Moi, je vis très très mal le fait de ne pas savoir demander de l'aide. J'ai beau le répéter régulièrement aux familles que j'accompagne, aux jeunes mamans, demandez de l'aide, les gens sont contents de vous aider. Sauf qu'en fait, moi, je ne le sais pas. C'est pas une histoire d'ego surdimensionné, c'est que je n'arrive pas à demander de l'aide. Je ne conçois pas quelle chose je peux... Techniquement, c'est très difficile pour moi. Et pourtant, j'ai fait plein de ressources pour ça et j'y arrive très bien avec les autres familles. Mais pour moi-même, je n'y arrive pas. Donc oui, en effet, je sais qu'on est nombreuses comme ça, donc proposez votre soutien et parfois même de manière respectueuse quand même, imposez votre soutien parce que des fois c'est comme le fameux ça va, ben on répond ça va, là si tu veux de l'aide, ben non je veux pas d'aide, sauf que sur des choses très précises en disant bah tiens je viens t'aider à faire le jardin ensemble cet tel après-midi, et ben là c'est ok. Donc ouais, ça c'est un... quelque chose qui peut être vraiment aidant. Et ensuite, soyez patiente et faire preuve d'empathie. Si la communication est interrompue, ça peut être chamboulant, ça peut être un soulagement, mais il y a des personnes pour qui c'est très difficile d'apprendre leur autisme et qui vont avoir besoin de temps pour redéfinir qui elles sont, pour redéfinir qu'est-ce qu'elles ont fait comme choix dans leur vie. C'est hyper dur de se dire, ok, ben en fait, j'arrive aujourd'hui à l'instant T, j'ai 38 ans... qu'est-ce qui est vraiment de mon ressort? Quels sont les choix que j'ai fait vraiment moi? Quels sont les choix que j'ai fait par dépit? Quels sont les choix que j'ai fait juste pour coller à une image auxquelles moi je ne corresponds pas parce qu'en fait je suis autiste? Et bien ça peut être très chamboulant, ça peut prendre du temps, donc oui, soyez patiente, vraiment. Au passage, j'en profite pour vous dire que j'organise régulièrement des cercles de parole, notamment en ligne, qui sont ouverts aux personnes avec un diagnostic ou pas, en tout cas qui se questionnent au sujet de l'autisme pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Donc le prochain aura lieu d'ici peu de temps et j'en fais régulièrement. D'autres petites choses qui peuvent être assez sympas à lire, je vous avais noté La différence invisible, il y a aussi Ça va aller de Daisy Dessine, et donc je vous recommande à nouveau l'excellent podcast Troubles dans le spectre. Il y a plein d'autres ressources, je ferai peut-être un petit, ça fait déjà longtemps d'écoute, donc je vous ferai peut-être un autre petit post avec vraiment des lectures et d'autres ressources à découvrir à ce sujet-là. Merci d'être arrivé jusqu'au bout, c'était long, N'hésitez pas à partager autour de vous s'il y a des personnes à qui vous sentez que ça peut faire du bien. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit message. Je vous assure que je les lis avec beaucoup d'émotion. Ça me fait beaucoup de bien de sentir que je vous touche, que ça vous parle, que l'écoute de mes épisodes de podcast font réveiller des choses en vous, vous font questionner, vous font avancer, cheminer. Et vraiment, j'ai envie qu'on partage ça ensemble. N'hésitez pas. Et je passe une dernière petite annonce. J'ai vraiment à cœur, comme depuis toujours sur ce podcast, même si la formule a changé un peu, d'accueillir des personnes. Donc si vous avez envie de témoigner sur une sujet thématique particulière autour de la périnatalité et de la parentalité, n'hésitez pas à me contacter, on échange ensemble et on voit quels sont les possibles. Je vous souhaite une très belle fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine. Merci pour tout.